Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Anglais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Dans tous les domaines, le commerce physique laisse la place au commerce numérique réalisé par l'intermédiaire d'Internet, François.
Oui, c'est frappant dans le commerce traditionnel de vêtements, par exemple. Là, on a vu les faillites se succéder depuis quelques mois. En gros, j'allais dire toutes les chaînes de vêtements, pas toutes, il en subsiste quelques-unes, mais Naf a disparu, Lal, anciennement Lal, aux vêtements a disparu, les magasins de chaussures également. Le dernier en date, c'est Comptoir des Cotonniers, c'était il y a quelques jours. Là encore, il disparaît à cause de l'épidémie, même si la tendance était évidemment antérieure. Ça va bien au-delà pour autant du commerce de vêtements. Cette semaine, Volvo, c'est un constructeur d'automobiles détenu par un Chinois, constructeur d'automobiles plutôt de luxe, qui annonçait cette semaine qu'à partir de 2030, il n'aurait plus de concessions automobiles. Autrement dit, il allait faire 100% de ses ventes sur site internet. C'est vrai d'ailleurs que chez tous les constructeurs, le nombre d'essais de véhicules et de visite à la concession avant de se décider pour acheter une voiture ne cesse de chuter. Il y a même une voiture sur trois qui est achetée sans l'essayer. Peut-être parce que ce sont des gens qui reprennent le même modèle. Et maintenant, le client prépare son achat sur Internet avec les simulateurs, ce qui lui permettent de choisir toutes les options qu'il souhaite et de se rendre compte ce que ça donne, hein, des essais virtuels en quelque sorte. C'est d'autant plus intéressant pour le constructeur que le coût de la distribution, c'est-à-dire l'entretien d'un réseau physique de concession ou bien la redevance qu'on paye indirectement, ça représente 30% du coût sorti d'usine d'un véhicule, donc c'est énorme. Et évidemment, on comprend bien que les constructeurs soient désireux de réduire ces coûts-là à un moment où ils sont soumis à une concurrence très forte. Dans un tout autre domaine, montée en puissance de l'Internet aussi, l'immobilier. Mais attention, non pas des sites d'agences comme on les connaît depuis déjà une quinzaine d'années, mais des sites tout court, c'est-à-dire des sites qui, justement, mettent en présence le vendeur et l'acheteur, exactement comme Le Bon Coin. Il y a realestate.com, c'est une boîte américaine qui fait véritablement un carton aux États-Unis. Certains vont même jusqu'à mettre aux enchères les biens qu'ils proposent. Autrement dit, si vous êtes intéressé par une maison ou un appartement, eh ben, vous prenez contact avec le propriétaire et puis vous faites une enchère et que le meilleur gagne. Donc, on voit là aussi que les agences traditionnelles qui ont essaimé dans nos villes depuis une dizaine d'années, hein, il y en a maintenant quelquefois deux ou trois, même dans des petites ville, eh bien, elles sont en péril. Les agences bancaires, l'actualité est quasiment hebdomadaire. La semaine dernière, c'était LCL qui supprimait 250 agences, c'est-à-dire 15% de son réseau. Il y a peu de temps, c'était Société Générale Crédit du Nord qui, à l'occasion du regroupement entre les deux enseignes, disait qu'il allait là aussi réduire son réseau physique. Il y a peu, c'était Commerzbank en Allemagne qui fait la même chose. Et on l'oublie, mais il y a aussi les restaurants qui livrent à domicile, hein. Les cinémas qui sont remplacés par l'extraordinaire croissance des services de streaming. Voilà encore deux domaines qui avaient des emprises physiques dans nos villes et qui, à l'occasion de l'épidémie, sont obligés de s'orienter différemment et de trouver la voie du client de façon différente. Ces services de streaming connaissent un essor extraordinaire. Le dernier en date, c'est Disney. 95 millions d'abonnés dans le monde en 15 mois, alors qu'il comptait sur 5 ans pour les obtenir. Ça a été beaucoup plus vite, mais partout, dans tous les domaines, ce qu'on appelle le brick and mortar, c'est-à-dire la brique et le mortier, autrement dit les magasins physiques, c'est plutôt, disons, les moellons et la vitrine chez nous, tout ça, ça s'efface au profit de l'Internet.
Alors, l'épidémie a joué un rôle majeur, hein, dans cette transformation, mais est-ce que l'on sait dire aujourd'hui si cela va durer ou bien si on retrouve une vie normale? Est-ce que finalement les magasins physiques vont retrouver la place qu'ils avaient auparavant?
C'est très difficile à dire. On a l'impression quand même que l'épidémie a déclenché certaines choses qui ne seront pas forcément durables, au moins au point où elles le sont aujourd'hui, mais qu'elle a accéléré d'autres choses qui étaient engagées avant elle, et notamment le transfert du commerce vers l'Internet pour les vêtements et tout un tas d'objets de la vie quotidienne. Ça, on peut penser que c'est une voie sans retour, que beaucoup de gens ont découvert ce mode d'achat à l'occasion de la pandémie. Ils en avaient un peu peur, ou bien ils étaient hésitants à confier les coordonnées bancaires, leurs coordonnées bancaires sur Internet, ils ont été obligés de le faire, ils se rendent compte que c'est facile. Probablement ne reviendront-ils pas, au moins pas complètement, au commerce physique, parce que les avantages sont quand même très importants, sans compter le prix, parce que le grand avantage de l'Internet, c'est que ça vous permet de comparer les prix extrêmement facilement. Du coup, ça tire à la baisse les prix, évidemment. Ça joue exactement le même rôle que les grands magasins qui sont apparus dans nos villes à la fin du 19e siècle. À l'époque, justement, ils ont offert aux consommateurs tous les produits du même genre, et le consommateur a pu se faire une idée en comparant, et parce que c'était facile de le faire dans la mesure où tout était au même endroit. Internet joue le même rôle, en encore plus facile, parce que vous pouvez faire ça, non pas en vous déplaçant, mais de votre canapé. Idem pour l'immobilier. Au fond, la plus-value d'un agent immobilier, dans bon nombre de cas, elle est assez faible. Il met en présence le vendeur et l'acheteur. Internet peut le faire pour moins cher. Donc on peut penser que les agences, là aussi, vont prendre un coup. La banque, j'en parle même pas. Pour 95% des opérations bancaires, on n'a pas besoin de se déplacer. L'Internet se substitue maintenant de façon tout à fait efficace. Alors reste le restaurant et le cinéma. C'est vrai que le déclin du cinéma était engagé, mais il a été vraiment accéléré par l'épidémie. Quant au restaurant, là, c'est l'épidémie qui a provoqué tout ça. Pour autant, je ne parierais pas sur le retour intégral de la clientèle au monde d'avant. Parce que là encore, on aura découvert des modes de consommation. Une fois que vous êtes abonné à un service de streaming, vous avez une telle offre. Disney vient de mettre en ligne 3 800 heures de programme en France, là, il y a quelques semaines. Et les maisons de production du monde entier s'échinent pour justement alimenter ces nouveaux tuyaux qui ne sont finalement pas très chers, hein. C'est en gros le prix d'une place de cinéma, vous avez un abonnement mensuel. Donc là aussi, il y a une vraie différence. Le restaurant, on aura découvert la livraison à domicile, probablement on le gardera un petit peu, mais le plaisir d'aller au restaurant, il subsistera, et de partager un moment avec ses amis dans un cadre sympathique et avec un service de qualité, ça vaudra encore quelque chose, je pense, quoi qu'il arrive, dans le monde de l'après-épidémie.
Ouais, mais pour autant, François, vous n'êtes pas très optimiste sur l'avenir des rues des centres-villes. Et voilà, on sait qu'il y a un phénomène de vacances commerciales qui est important et beaucoup de magasins ont fermé. Vous pensez que ça va changer quand même?
C'est vrai que quand on y pense, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans nos artères commerciales? Parce que si on supprime tout ce qu'on vient d'évoquer, les banques, les agences immobilières, eh bien il reste les coiffeurs, l'artisanat, bon, qui n'a pas forcément le moyen de se développer sur Internet, et je mets là-dedans les produits bio, haut de gamme, hein, peut-être la réparation de vélos. C'est un business qui est en plein boom parce que les Français achètent des centaines de milliers de vélos, mais il n'y aura pas de quoi remplacer tout. Et alors, la tendance positive, c'est qu'à l'occasion de l'épidémie, les gens ont redécouvert les commerces de bouche de leur centre-ville au détriment des grandes surfaces. Donc, peut-être resteront-ils quand même clients de leur fromager ou de leur boucher après avoir découvert que, même si c'est un peu plus cher que le supermarché qui est à quelques kilomètres du centre-ville, généralement la qualité est meilleure. Cela dit, deux expériences intéressantes qui montrent qu'il ne faut quand même pas désespérer du commerce physique. La première, c'est celle d'Apple, qui vend l'essentiel de ses produits en ligne, mais qui a maintenu des boutiques de très haut de gamme dans les centres-villes, les Apple Store, hein, il y en a plusieurs dizaines dans le monde, pour entretenir le désir de ses produits, flatter la marque. Au fond, ce sont plus des showrooms d'ailleurs. On peut évidemment y acheter les produits, mais on vient surtout les voir. Et on vient discuter avec le vendeur, si on en trouve un disponible, pour qu'il fasse une démonstration. Donc on peut se dire qu'après tout, les ventes d'automobiles demain, ça sera ça. Peut-être Volvo gardera-t-il quand même dans les centres-villes, parce que là, c'est vraiment dans les centres-villes que ça se joue. On imagine mal installer un showroom dans la zone industrielle à 20 km de la ville. Peut-être Volvo installera-t-il justement un magasin d'exposition qui permettra de montrer ses derniers modèles. L'autre élément qui est du même genre, c'est Amazon qui a investi dans des magasins physiques quand même. Le géant du commerce, du e-commerce mondial, a acheté Whole Foods, une chaîne de distribution de produits alimentaires haut de gamme, qui sont à la fois des vitrines, donc c'est le rôle que jouent les Apple Store, mais aussi qui peuvent devenir demain des centres logistiques pour livrer tout alentour.
Alors la grande question, ce sont les conséquences sur l'emploi, hein, de toutes ces décisions. Et puis, vous parliez d'Amazon, il y a un contre-exemple, hein, puisque la semaine dernière, Amazon a aussi ouvert son premier magasin sans caisse hors des États-Unis, à Londres. Vous scannez à l'entrée, vous scannez à la sortie, et puis vous êtes débité sur votre carte bancaire. Vous rencontrez pas un seul vendeur ni un seul caissier.
Oui, ça montre que d'abord quand même pour ces entreprises championnes du commerce en ligne, malgré tout, elles considèrent considère que ça vaut le coup de maintenir une présence physique moindre que les circuits de distribution traditionnels, mais quand même. Et puis, l'autre question implicite dans cet exemple, c'est quelles conséquences sur l'emploi? C'est vrai que le métier de vendeur de magasin est en train de disparaître. Et on le voit déjà dans les statistiques de l'INSEE, je me souviens, il y a 15 ou 20 ans, vraiment le gros bataillon des créations d'emplois, quand on était en phase de croissance, c'était la rubrique commerce. Bah, c'est fini. Pas fini complètement, mais ça diminue parce que, évidemment, on est plutôt dans des phases de contraction, justement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en solde net, l'emploi diminue pour autant? Pas forcément. Parce que quand on regarde de près, on se rend compte que, justement, le e-commerce, il a besoin aussi de gens, mais pas les mêmes. Il a besoin de livreurs. Il a besoin de logisticiens dans les entrepôts qui préparent les commandes, préparateurs de commandes. Donc, c'est pas le même boulot, mais c'est quand même jusqu'ici des tâches qui sont assumées par des hommes, peut-être pas pour toujours. On parle de livraison par drone et de robots préparateurs de commandes, mais pour aujourd'hui, ce sont encore des hommes qui le font. On pourrait poursuivre d'ailleurs le parallèle. Les ouvreuses dans les cinémas et les caissières de naguère sont remplacées par des techniciens télécoms pour installer les box à domicile ou par des téléconseillers pour vendre les abonnements de telle ou telle offre de streaming en télé. Donc on voit bien que c'est toujours un peu le même mouvement où on détruit des secteurs traditionnels, mais la destruction n'est pas nette parce qu'il y a substitution avec l'émergence de nouveaux intermédiaires et donc de nouvelles spécialités et aussi de nouveaux emplois.
Donc vous nous dites qu'il y aura toujours beaucoup d'emplois, mais que c'est en fait la qualité de ces emplois qui ne sera plus la même.
Ça, c'est vrai, c'est un vrai problème. D'abord, il y a le statut et les conditions de travail. Quand je parlais des livreurs, ce sont souvent des indépendants auxquels on refuse le statut de salarié et la relative sécurité qui lui est associée. On les voit d'ailleurs beaucoup en ce moment dans nos villes, hein, des jeunes qui sont en vélo, avec des sacs chargés de nourriture au moment des repas ou bien d'autres choses au fil de la journée. Ils sont exposés aux accidents de la route, ils sont exposés à la météo qui n'est quelquefois pas très clémente, et puis il y a une pression très forte, hein, en termes de productivité. Et ça rappelle le dernier film de Ken Loach où justement il décrit les conditions de travail d'un homme qui s'est fait licencier de son entreprise et qui achète un camion pour se lancer comme indépendant. Et on voit bien que l'indépendance n'est qu'une illusion parce que en réalité il faut qu'il soit extrêmement productif et qu'il distribue un nombre très important de paquets dans la ville dans la journée. Au-delà de ça, c'est pour les salariés qui sont employés par ce commerce en ligne, ce sont les conséquences négatives de ce qu'on appelle l'économie presse-bouton, l'économie à la demande. Le client veut tout tout de suite, mais oui, tout. Et c'est vrai qu'on est tous comme ça. On appuie sur le bouton, on commande un livre, on voudrait qu'il soit dans la boîte 10 minutes après, un repas, évidemment. On est pressé de dîner ou de déjeuner. Donc ça suppose, si nous avons le confort d'être livrés quasiment instantanément dans l'endroit de notre choix, une flexibilité considérable de la part des producteurs et des livreurs, hein, pour justement concentrer leurs forces de production dans les périodes de pointe. Tout le monde a envie de manger au même moment ou à peu près, hein. C'est un peu les travers de l'économie à la demande. En fait, le client a externalisé tous les problèmes de logistique et de délai sur le producteur. Auparavant, si je veux un livre, c'est moi qui aurais assumé la difficulté de me garer en centre-ville et qui éventuellement aurait pris une prune parce que j'aurais mis mon véhicule dans un endroit où ça n'est pas autorisé ou qui aurait subi l'embouteillage parce que c'est le moment de la sortie de l'école. Et puis, c'est fini, je ne veux plus subir cela. Et avec mon bouton sur lequel j'appuie sur mon site internet, je reporte cette charge sur le livreur d'Amazon. C'est lui qui subira tout ça. Et non seulement je ne lui en sais pas gré, mais je veux qu'il arrive à l'heure et que ça ne me coûte pas un fifrelin. En réalité, le client externalise tous ses problèmes sur le producteur qui lui-même les refacture à ses employés, hein, c'est-à-dire aux indépendants qu'il emploie justement pour faire les livraisons sous forme de conditions de travail beaucoup plus rudes que dans un magasin. Les magasins, je dis pas que c'était forcément facile, les clients sont pas toujours agréables, mais pour autant, d'abord on est protégé quand même du froid, deuxièmement on a des horaires prévisibles et fixes, on ne subit pas les embouteillages sauf pour aller travailler, donc ce sont des conditions de travail beaucoup plus stables, et c'est vrai que là, il y aura probablement inventer un nouveau pacte social. On voit bien que Il y a des actions en justice qui sont déposées par les livreurs ou les chauffeurs Uber, etc. Et que c'est un peu pile ou face, hein. Un tribunal va accepter leurs requêtes et les requalifier, et puis un autre pas du tout. Donc on est dans ce marécage qui est constitutif d'ailleurs des activités émergentes, hein, où on voit qu'il va probablement falloir encadrer, modéliser les conditions sociales de ce nouveau mode d'existence que nous avons, nous, consommateurs, avec une certaine forme de cruauté et de cynisme inconscient, plébiscité au point de transformer l'ensemble de la chaîne commerciale dans nos villes.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.